Il est 17h à Niamey. Bienvenue au journal en français du studio Kalangou. À la présentation, je suis Rafika Taher. À la une ce soir, après la libération de Jeffrey Woodke lundi passé, la population de Abalak, la ville où a vécu l'ancien otage dans la région de Tawa, a tenu à exprimer sa gratitude aux autorités nigériennes. Vous aurez les détails dans ce journal. Le MENA U23 du Niger a fait un match nul 0 but partout hier à Niamey avec les Crocodiles du Soudan pour le compte du match aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 de football. Vous écouterez les appréciations du sélectionneur du Niger. Et la partie magazine portera sur la prolifération de la chenille légionnaire d'automne qui a envahi presque tous les pays du continent dont le Niger. Un spécialiste au laboratoire d'entomologie de Maradi nous en donnera plus de précisions. Bonsoir à tous. Aujourd'hui débute le mois du Ramadan au Niger et dans la plupart des pays musulmans, un mois d'adoration et de recherche du pardon pour les musulmans. Il existe des règles qu'un jeûneur doit observer. Quelqu'un qui jeûne peut-il rompre celui-ci avec des produits pris à crédit? Haladou Yahaya, prédicateur, répond au micro de Zainab Abdou.
Pour rompre les jeûnes, on peut rompre les jeûnes avec des produits qu'on a pris à crédit. Les plus importants ici, c'est qu'en prenant le crédit, c'est d'être bien intentionné, c'est-à-dire prendre avec la ferme intention, l'intention pure de payer le crédit. Sinon, le crédit sollicite et rompre les jeûnes avec. C'est permis.
Après une journée d'observance du jeûne, le jeûneur doit rompre en prenant des aliments et de boissons bénéfiques pour le développement de son organisme. La prise de ces aliments doit se faire avec modération, conseille Abdelrazak Bello, nutritionniste. Il est au micro de Fatima Almiaro.
Le principe, c'est d'aller de l'aliment le plus léger à l'aliment le plus lourd. Donc, à la rupture, on peut consommer la date. C'est un aliment qui est léger. En plus, la date renferme des éléments nutritifs qui sont importants pour le jeûneur parce que la date est riche en vitamines, est riche en potassium, est riche en fibres alimentaires. Après, on peut consommer les boissons de façon générale. Maintenant, il faudrait avoir à l'esprit que la boisson qui est prioritaire, c'est l'eau. Il faut plutôt consommer de petites quantités plusieurs fois que de grandes quantités une seule fois. Et ces boissons sucrées, il faudrait également éviter d'être dans l'exagération. Il est important également pour le jeûneur, au moment de la rupture, d'avoir des fruits et des légumes. Les fruits et légumes contiennent des vitamines antioxydantes comme la vitamine A et la vitamine C, particulièrement importantes, surtout en période de forte chaleur parce que la vitamine A et la vitamine C ont des propriétés qui permettent de mieux supporter certains problèmes associés à la chaleur.
Comme je le disais tantôt, suite à la libération de l'otage américain Jeffrey Woodke, la population d'Abalak a rendu publique hier une déclaration pour exprimer sa joie et remercier les autorités nigériennes de leur permettre de revoir cet humanitaire qu'elles considèrent comme l'un des leurs après près de 8 ans de captivité par le JNIM. La déclaration est lue par Hamadi Bilo Ag Mohamed El Mokhtar, habitant d'Abalak et ancien collaborateur de Jeffrey Woodke.
Jeff Woodke, de par son comportement et son mode de vie, a toujours considéré le Niger comme seconde patrie et Abalak, où il se confond à tout le monde comme son deuxième village natal. Jeff Woodke a œuvré pour faire rayonner le bonheur dans les familles pauvres du département d'Abalak, dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'élevage, de l'hydraulique, de la protection et de la résilience des populations au changement climatique. C'est pour toutes ces raisons. Aujourd'hui que Jeff Woodke a retrouvé la liberté, il est un devoir pour nous d'exprimer toute notre gratitude et toute notre reconnaissance aux autorités nigériennes. La population du département d'Abalak partage l'immense joie de sa libération avec sa famille et ses amis. Rend à nouveau un hommage à tous ceux qui ont perdu leur vie lors de ces tragiques événements et réitérons nos condoléances et notre compassion à leurs familles respectives ainsi qu'à tous les éléments des forces de défense et de sécurité tombés pour la défense de notre pays.
Il était au micro de notre correspondant d'Abalak, Mohamed Atayoub. La libération des otages américains Jeffrey Woodgay et du journaliste français Olivier Dubois marque un point important dans l'efficacité de la diplomatie nigérienne, a déclaré Seydik Abba. Cela va permettre au Niger de renforcer son savoir-faire en matière de libération d'otages, estime le journaliste spécialiste des questions sécuritaires au Sahel. Il est joint au téléphone par Tarnan Foudey Ahmed.
Il faut d'abord se réjouir de cette libération de deux otages. Olivier Dubois est un journaliste et la détention d'un journaliste est toujours préoccupante. La libération de l'otage américain aussi est un soulagement puisque lui, sa détention remonte à 2016. Et ces deux libérations, il faut les mettre au crédit de la diplomatie nigérienne en matière de libération d'otages. Les services des renseignements nigériens ont construit une réelle expertise que l'on a pu voir déjà en 2013 avec la libération des otages d'Arlit et cette fois avec la libération de ces deux otages, d'autant qu'avant ces deux otages, une otage américaine aussi a été libérée. Donc il y a aujourd'hui une sorte de référence dans l'expertise nigérienne, dans la libération des otages. Et il faut espérer que les autres otages qui sont dans la région puissent être libérés avec le concours et la bienveillance du Niger.
Le Sahel face aux enjeux et mutations contemporaines, c'est le thème du 4e dialogue Sahel-Sahara tenu en début de semaine à Niamey. Une trentaine de personnalités, parmi lesquelles chercheurs et cadres de défense et de sécurité, ont pris part à cette rencontre organisée par la Fondation Frédéric Ebert. L'un des panélistes, Seydik Abba, journaliste et spécialiste des questions sécuritaires au Sahel, nous parle de ce qui a été dit. Il est toujours au téléphone de Tarnan Foudey Ahmed.
Une trentaine de personnalités qui s'intéressent aux problématiques et enjeux sahéliens, des universitaires, des chercheurs, des cadres de forces de défense et de sécurité de la sous-région sahélienne et des pays d'Afrique de l'Ouest, plus même d'autres régions du monde, ont participé à cette rencontre, ont débattu justement de la situation actuelle au Sahel et ont essayé de comprendre quelles sont les raisons qui expliquent pourquoi encore, en dépit de la mobilisation, la menace sécuritaire continue d'avancer au Sahel. L'ensemble des participants ont estimé qu'il faut aller vers un nouveau paradigme, il faut construire une réponse holistique qui associe le militaire, le sécuritaire, l'humanitaire, le développement, la justice, la gouvernance. Et ils ont également insisté sur la nécessité de construire une réponse transnationale, une réponse régionale qui associe les efforts de l'ensemble des pays.
Ils étaient 35 stagiaires, dont 15 de la gendarmerie, 15 de la police et 5 de la garde nationale de la région d'Agadez à subir une formation de 17 jours dans le cadre du renforcement de leur capacité opérationnelle à maintien de l'ordre par des experts italiens à travers ECAP Sahel. Ils ont acquis des connaissances théoriques et pratiques dans le maintien de l'ordre, a expliqué le commandant de la Légion numéro 2 de la gendarmerie d'Agadez. Lieutenant-colonel Moussa Harouna, au micro de Moussa Maman.
35 stagiaires, dont 15 de la gendarmerie nationale, 15 de la police nationale et 5 de la garde nationale, ont acquis des connaissances théoriques et pratiques aux techniques de maintien de l'ordre dans le domaine suivant. Protection d'un local, contrôle d'une barricade, arrestation d'un manifestant hostile et transport d'un blessé de la troupe, différentes techniques de dispersion des manifestants. Vous êtes certes outillés des techniques de maintien de l'ordre, mais sachez que nos rues sont devenues aujourd'hui les lieux de revendication des droits. Vous avez en face de vous des adversaires et non des ennemis. Donc, vous et les manifestants, vous êtes appelés à gérer une situation, celle de rétablir l'ordre, sans pour autant entraver la libre circulation des personnes et de leurs biens. Je vous demande par conséquent de privilégier le dialogue avec ceux qui revendiquent leurs droits, car le droit de grève est reconnu par les textes légaux.
Continuons à Agadez où un forum sur la sécurité et la cohésion sociale à Tirozérine s'est tenu les 15 et 16 mars. Il y avait la présence de toutes les autorités, les acteurs de la paix et les chefs des villages de la région. Bokli Najim, préfet de Tirozérine, sur des propos recueillis par Ahmed Félan.
La lutte contre le banditisme dans les départements de Tiro exige certes l'implication des communautés locales, mais aussi et surtout la collaboration des FDS. C'est pourquoi les efforts inlassables déployés par l'État dans le cadre de la sécurité ne pourront désormais être seul vecteur des produits de la sécurité sans une collaboration sincère et efficace des communautés locales. Notre département est confronté à trois types de menaces. Il s'agit de banditisme armé à bord des véhicules lourdement armés, le banditisme armé à bord des motos, banditisme résiduel, attaque ciblée, vol par effraction et vol des nuits. Ces menaces sont communes à tous nos départements de la région et partout d'ailleurs au Sahel, dont les sous-sols regorgent d'importantes ressources latérales, dont la mise en valeur exige la paix et la sécurité.
Au Niger, après les journalistes du privé, le week-end dernier, les agents des médias du secteur public ont élu hier à leur tour leur représentant au Conseil supérieur de la communication CSC. Il s'agit de Ali Oumarou, Koubra Ilo de La Voix du Sahel et Samaïla Issoufou de Télé Sahel. Hier, au stade général Séni Kountié de Niamey, le MENA U23 du Niger a fait un match nul, 0-0 avec son homologue soudanais. Cela pour le compte du match aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 de football. Zakariaou Ibrahim, sélectionneur du Niger, à la fin du match déclare que ses joueurs ont raté beaucoup d'occasions. Il est au micro de Salamatou Kadri.
C'est l'efficacité qui n'a pas marché. Nous sommes créés énormément d'occasions, malheureusement. Devant le but, nous n'avons pas été capables d'être lucides. Bon, c'est vrai que partie remise, on n'a pas encaissé non plus. Donc tout peut se jouer au match retour. On y croit toujours, on est encore toujours dans la compétition. Donc il suffit seulement d'aller marquer un but, comme on l'a fait en Côte d'Ivoire. Je crois que tout va se jouer au Soudan, Inch'Allah. C'est devant qu'on a des problèmes. On va travailler peut-être, on n'a malheureusement pas beaucoup de temps, mais on va aller au Soudan. Inch'Allah pour se qualifier. Mais bien sûr, c'est un regret, c'est vraiment de la frustration même derrière parce qu'on a essayé, vraiment, on a tout donné. Les enfants vraiment sont donnés à cœur vaillant. Mais rien n'est fait encore parce que, heureusement pour nous, on n'a pas encaissé. Donc tout est à faire, Inch'Allah, dans une semaine.
Arrivée en 2016 en Afrique de l'Ouest, la chenille légionnaire d'automne a envahi presque tous les pays du continent, dont le Niger. Une prolifération rapide due au fait que ce papillon peut parcourir une distance de 100 km en une seule nuit, selon la FAO, et se reproduire sur environ 10 générations par an contre une génération pour la chenille mineuse de l'épi. Au Niger, une étude est faite dans 4 régions agricoles. Laminou Souleymane, docteur au laboratoire d'entomologie de Maradi, explique au micro d'Ousmane Mamoudou dans la partie magazine.
Docteur, qu'est-ce qu'est l'entomologie ?
Entomologie, on peut les scinder en deux mots. Donc vous avez entomo, qui veut dire insecte, et le logie, qui signifie science ou étude. Donc l'entomologie, c'est l'étude des insectes.
Quels sont les insectes nuisibles les plus fréquents au Niger ?
Les ennemis des cultures, c'est en fonction des spéculations. Chaque spéculation a ses types d'ennemis. Sous le nébé, c'est deux insectes qui causent plus de dommages, le clavigralla et Maruca vitrata. Quand on prend le mil, c'est la chenille mineuse de l'épi de mil. Le maïs, le plus grand ravageur, à partir de 2016, c'est la chenille légionnaire d'automne. Déjà même au Nigeria, les producteurs l'ont surnommé Boko Haram, de par l'ampleur de ces dégâts. Des dégâts qui peuvent varier de 22% jusqu'à 100% pour certains auteurs.
Quels sont les types d'insectes et leurs caractéristiques ?
Nous avons des insectes ravageurs qui peuvent provoquer des dégâts aux cultures. Nous avons des auxiliaires de culture. C'est des insectes qui aident les producteurs dans la lutte contre les ravageurs de ces cultures-là. Et nous avons le troisième groupe qui est intermédiaire, c'est des insectes. Ils ne causent pas de dégâts aux cultures et ils n'aident pas les producteurs aussi dans la gestion de ces ravageurs-là.
Quelle est la particularité de la chenille légionnaire d'automne ?
La chenille légionnaire d'automne, donc Hispodoptera frigiperda, c'est un insecte papillon, c'est un insecte à métamorphose complète. C'est des chenilles qui vont évoluer progressivement avec des stades larvaires. C'est un nouveau ravageur parce qu'il est apparu en 2016 en Afrique. Et de 2016 à 2018, quand on a fait des investigations à travers l'Afrique, on a trouvé que l'insecte a envahi l'ensemble des pays africains, à l'exception de 3 pays où on n'a pas eu la confirmation officielle, le Lesotho, Djibouti et Érythrée. Alors, ce n'est pas l'ensemble des insectes qui ont cette capacité de prolifération-là. Il y a des insectes où, dans l'année, c'est un seul cycle qu'ils font. Mais la chenille légionnaire-là peut faire 6 à 10 générations. Contrairement à la chenille mineuse de l'épi de mil, où c'est un seul cycle dans l'année. La deuxième chose, c'est sa capacité de migration. En une nuit, l'insecte peut parcourir plus de 100 km.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, place au journal en tamashek dans une présentation de Habiba Ahmed. À 18h15, suivez le forum en français dans une présentation de Nafisa Adamou.